Bonjour à toutes et à tous, ici Laura Le Sueur et bienvenue sur le podcast des Legend Ladies. Legend Ladies est un podcast sur l'ambition féminine. Je reçois celles qui construisent leur légende personnelle au quotidien. Si on envisage l'ambition comme le fait d'oser, de trouver le courage de s'accomplir et de s'épanouir, si on part du principe que nous pouvons, par nos actions, chacune et chacun créer notre légende personnelle, alors oui, l'ambition peut être noble et belle. Dans ce podcast, j'interroge celles qui font mentir les statistiques. Quand on sait que seul un tiers des entreprises sont créées par des femmes et que seulement 15% d'entre elles sont présentes au COMEX des entreprises, il y a de quoi s'interroger. Ensemble, nous allons creuser l'envers du décor, au travers des parcours très divers que sont ceux de mes invités. Comment est vécue l'ambition, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, selon les âges, les situations familiales, les contextes sociaux ou culturels? Comment ces femmes ont osé choisir parfois des chemins de traverse pour finalement arriver à vivre leur propre définition de la réussite? Legend Ladies, ce sont d'abord et surtout des femmes qui ont fait des choix libres. Des femmes qui ont osé, qui ont tenté l'audace pour se réaliser. Des femmes qui ont su tracer leur voie et faire entendre leur voix. Je mets en lumière et partage avec vous ces parcours inspirants, ces choix ambitieux de celles qui construisent leur légende personnelle au quotidien. Elles sont entrepreneurs, sportives, artistes, mères au foyer, chefs d'entreprise, écrivains ou encore politiques. Ce sont les Legend Ladies. J'espère de tout cœur que chaque épisode vous inspirera et vous donnera envie, pourquoi pas, de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram, Legend Ladies Podcast, ou sur LinkedIn à Laura Le Sueur. Si ce podcast vous plaît, prenez quelques minutes pour le noter 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Il me reste à vous souhaiter une belle écoute en espérant que cet épisode vous plaira. Je vous l'annonce, il s'agit d'un épisode d'utilité publique tant mon invité aborde des sujets vitaux pour les femmes, quel que soit leur âge, leur profession, leur milieu ou leur catégorie sociale. Cet épisode nous concerne toutes, de près ou de loin. Dans cet épisode, je reçois Hada Atem, gynécologue obstétricienne et fondatrice de la Maison des Femmes, qui accueille et accompagne les femmes en situation de vulnérabilité dans un lieu vivant et chaleureux à Saint-Denis, où nous avons enregistré cet épisode. Je rappelle quelques chiffres qu'il faut avoir bien en tête, car si cet épisode sort le 8 mars, journée internationale de la lutte pour le droit des femmes, les chiffres suivants traduisent une réalité de chaque jour. Une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. 40% des cas de violence conjugale débutent lors de la première grossesse. 86% des viols ou tentatives sont perpétrés par des proches. 120 000 femmes qui vivent en France ont subi l'excision. Hada naît et grandit au Liban, dans les années 60, au milieu de 3 frères et dans un climat qui est celui d'un pays en guerre. Suite à ses études de médecine, elle réalise un stage dans une maternité. Elle découvre la magie de la naissance, et là, c'est le coup de foudre pour cette spécialité qu'est la gynécologie obstétrique. Hada nous apporte son éclairage sur des sujets fondamentaux que vivent de très nombreuses femmes, comme par exemple les violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, et le silence terrible qui les entoure, le rôle clé de l'entourage, proche ou même plus éloigné, lorsqu'il est témoin de scènes malaisantes. Comment sortir de la honte quand on est victime de violences? Nous avons aussi parlé d'IVG, d'inceste, de violences obstétricales ou encore de la condition des sages-femmes. Un épisode riche, passionnant et ô combien nécessaire. Pour soutenir ou aider la Maison des Femmes, veuillez vous rendre dans les notes de l'épisode. J'espère que cet épisode spécial vous plaira. Merci à Hada de m'avoir reçue et d'avoir été mon invitée sur le podcast. Cet épisode est fait pour être partagé au plus grand nombre, femmes ou hommes. Je ne vous en dis pas plus, vous souhaite une belle écoute en compagnie de mon invitée, Hada Atem. Bonjour Hada.
Bonjour Laura.
Hada, je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast des Legend Ladies. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci de m'avoir invitée. Alors, Hada, on se voit aujourd'hui à Saint-Denis, où se trouve la Maison des Femmes. Tu vas nous en parler, maison qui a été créée, je crois, fin 2016. Tu es intervenue, tu as donné ton temps sur pas mal de podcasts, et pas que. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de transmettre ?
C'est important de transmettre parce que je pense que quand on a réussi quelque chose, et je crois que la Maison des Femmes aujourd'hui, le mérite ne m'en revient pas, en tout cas pas complètement, on peut dire que c'est une réussite. Je pense que c'est intéressant de témoigner parce que d'autres personnes peuvent avoir des projets et ne pas se sentir autorisées à les mener à bien. Et c'est important de leur dire que même quand c'est difficile, ça peut finir par marcher.
Alors justement, cette maison, elle a été créée en 2016. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est ce lieu ?
C'est un lieu très, très vivant et très chaleureux. Ça, c'était vraiment la commande de base. De manière à ce que les femmes qui viennent s'y sentent bien. Et c'est sûr que quand on est une femme qui a traversé des choses difficiles, parce que la notion de situation de vulnérabilité est très vague, ou des violences, ça c'est un petit peu plus clair, eh bien on a besoin d'être accueillie d'une manière plus spécifique. En tout cas, c'était ma conviction, que dans une unité de soins normale, où effectivement l'accent est mis en général sur la sécurité des soins, la qualité, ce qui est essentiel, c'est quand même la base, mais où parfois le côté accueil, le côté émotionnel, le côté prise en compte globale de la personne est moins présent. Et donc j'ai voulu vraiment un endroit qui permette à ces femmes de se sentir accueillies et surtout accompagnées de bout en bout dans leur démarche.
Alors tu parles effectivement d'accompagnement global, il y a plusieurs unités. Je crois que les femmes peuvent également venir avec leurs enfants quand elles en ont. Et je crois qu'il est important de préciser, tu me dis si je me trompe, que ce n'est pas un lieu où les femmes vont rester dormir, par exemple ?
Tout à fait. Ce n'est pas une vraie maison au sens premier du terme, mais c'est quand même une maison parce qu'elle est accueillante et parce qu'on peut s'y sentir comme chez soi. En tout cas, c'est ce que les patientes nous disent. Et oui, on leur propose trois parcours en fonction des problèmes qu'elles ont. Et puis parfois, elles ont besoin des trois. Ça peut être un parcours autour de ce qu'on appelle aujourd'hui la santé sexuelle, qui inclut l'avortement, l'accès à la contraception, les maladies infectieuses, mais aussi la sexualité, dans ce qu'elle peut avoir de positif et de réjouissant. C'est notre deuxième unité, c'est les mutilations sexuelles, qui sont une pratique qui, a priori, n'est pas très fréquente aujourd'hui sur le sol français, en tout cas n'est pas réalisée très fréquemment. Par contre, il y a en France près de 120 000 femmes qui ont subi l'excision et qui vivent là. Et elles ont besoin d'explications, elles ont besoin de comprendre ce qui leur est arrivé, les conséquences de ce qui leur est arrivé. Et parfois, elles ont besoin aussi qu'on leur propose une chirurgie de reconstruction. Ouais. Et la troisième unité, c'est l'unité des violences. Donc violence conjugale, bien sûr, beaucoup. Et puis aussi violence dans la famille, violence sexuelle, inceste, viol. Et pour toutes ces femmes, quel que soit leur parcours, nous avons ce qu'on appelle, nous, une prise en charge transversale. C'est-à-dire qu'elle concerne toutes les unités, avec des groupes de parole, des psychologues, des psychiatres, des conseillères conjugales, des assistantes sociales, des ateliers pour améliorer l'estime de soi. Des kinés aussi pour travailler sur le corps et la possibilité de porter plainte sur place une fois par semaine. Et puis nous avons des bénévoles qui organisent des permanences de retour à l'emploi, permanences administratives pour ne serait-ce que se retrouver dans ses papiers, des tricotés, ce que votre mari a tricoté autour de vous en virant votre paye quand vous en avez une, en virant les allocations familiales chez lui, en mettant des logiciels espions dans vos ordinateurs pour maintenir son emprise au-delà de tout ce qui est imaginable. Et une permanence juridique avec des juristes et des avocats pour accompagner dans les démarches. Donc c'est effectivement assez complet. Et puis, bien sûr, on est des soignants d'adultes, mais les femmes sont très souvent mères et elles viennent avec leurs enfants. Et pour les enfants, c'est pas anodin. Avoir été élevé dans un milieu où il y a de la violence, ça laisse aussi des traces très graves chez les enfants. Donc quand les enfants viennent avec leur mère et qu'on voit qu'ils ne vont pas très bien, on les oriente vers notre consultation de pédiatre Et puis on a une psychologue qui connaît pas mal aussi ces problématiques-là. Et ça nous permet d'évaluer le besoin qu'ont ces enfants d'être pris en charge correctement et puis de les orienter.
D'accord, c'est effectivement un dispositif très complet. Alors, je fais un petit retour en arrière. Toi, tu nais et tu grandis au Liban dans les années 60. Comment est-ce que c'était cette enfance et puis cette adolescence au milieu de trois frères, je crois, et puis dans un Liban qui, à un moment donné, a connu la guerre ?
Oui, le Liban a toujours connu la guerre, puisque l'existence même d'Israël était une menace permanente. Et par exemple, j'ai mes souvenirs d'enfance, c'est la guerre des six jours, les avions, se calfeutrer chez soi, le couvre-feu.
Oui.
Le fameux couvre-feu. Et donc, en fait, pour moi, ça a un peu toujours été comme ça. Alors, il y avait évidemment, c'est pas tous les jours, mais enfance, ce sont des souvenirs qui vous marquent très profondément. Ce qui fait que quand la guerre civile a éclaté et que j'avais 13-14 ans, c'était comme... On s'y attendait, quoi. Ça ne pouvait pas ne pas péter. Et ça fait des enfances un peu bizarres. Donc déjà, avoir trois frères, ça vous oblige à bien vous positionner. Parce qu'on est très, très... Alors, il y a le côté un peu... on peut être le chouchou aussi. Mais très souvent, quand même, en Orient, les garçons ont une place très particulière pour plein de raisons. Mais... parfois, il y a des hommes qui disent, on leur demande combien ils ont d'enfants, ils disent, j'en ai un.
En comptant que les garçons ?
En fait, ils ont cinq filles et un garçon.
Ah oui.
Voilà. Et c'est amusant parce qu'il y a une écrivaine française, pour le coup, qui racontait ce même souvenir à propos de son père. Mmh. Donc ce n'est pas que l'Orient.
Ah oui.
Mais en Orient, c'est très fort. Vous êtes identifié par l'enfant de sexe masculin que vous avez, c'est comme ça qu'on vous appelle. Tu es le père de Joseph, la mère de Joseph, même si tu as eu avant Lucie, Julie, Mathilde.
Ouais, ton identité, Antoinette. C'est lié au sexe masculin.
Voilà.
Et toi, tes parents, quelle place t'ont-ils fait au milieu de ces trois frères ?
J'avais trois frères, notamment les deux aînés, qui occupaient beaucoup de place.
Ouais.
Et donc, il fallait, et je l'ai compris très vite, que je sois celle qui allait bien, celle qui n'avait pas de problème, celle qui réussissait bien à l'école, celle qui était cool. Et donc, j'ai fait ça.
Ouais.
Bon, ça ne m'a pas demandé beaucoup d'efforts. je dois le reconnaître, mais c'était très clair que de toute façon quand il y a des enfants qui occupent beaucoup le devant de la scène, les autres comprennent très vite qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde.
Bien sûr.
Donc voilà, j'ai eu de ce fait une enfance assez, ce qu'on qualifierait de sérieuse, bonne à l'école, et du piano, de la danse, des trucs comme ça.
Bonne élève.
Bonne élève.
Et est-ce que alors la médecine t'apparaît assez tôt comme une évidence ? Comment est-ce que tu commences à suivre ce parcours d'études ?
Non, la médecine m'apparaît plutôt dans les années lycée et plutôt en fin de parcours. Mais probablement là, pour le coup, la guerre y était pour quelque chose, puisque ça permet de se dire, bon, c'est quoi les métiers qui sont vraiment utiles, en fait, et de choisir un peu comme ça. Donc, il y a peut-être un biais dans mon choix, mais bon, je ne le regrette absolument pas. Tout va bien.
Oui, parce que tu fais donc tes études de médecine et tu fais un stage notamment dans une maternité. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est un peu le coup de foudre, l'environnement de la maternité ou...
Oui, ça, c'est clairement. Si je n'avais pas fait ce stage, je ne suis pas certaine que j'aurais choisi cette spécialité. Et c'est vrai que l'ambiance d'une salle de naissance est quelque chose d'extrêmement addictif, parce qu'il y a une sécrétion d'adrénaline comme ça en shoot à chaque naissance, et on y prend très vite goût. Et puis, il y a la magie de la naissance, hein, c'est pas un vain mot. Et quand on est jeune, se dire que à chaque fois, il y avait une femme, il y avait parfois un homme, mais pas toujours, et tout à coup, il y a un être humain de plus, et qu'on a aussi participé, parce que c'est un côté très manuel, très sensuel, très animal, la naissance. Et j'aimais beaucoup ce côté, j'ai mis mes mains dans la pâte, quoi, et voilà, il s'est passé un truc.
Ouais, t'es au cœur de la vie.
Complètement.
Et puis il y a aussi, c'est une question qui me vient, mais il y a aussi parfois des choses très difficiles qui se passent ou qui se passent pas comme prévu, en fait. De ces moments-là, tu as dû en vivre, c'est certain, mais comment est-ce qu'on se relève, entre guillemets, professionnellement, mais surtout humainement ? Et comment est-ce qu'on arrive à traverser ces moments qui doivent être durs aussi pour le corps médical ?
Oui, ce sont des moments très durs, d'autant que nous sommes une spécialité qui est complètement tournée vers la vie. Et de ce fait, les deuils, les choses tragiques n'ont pas vraiment de place. Après, on sait très bien. Et nous, ce qui nous stresse en tant qu'accoucheurs, c'est justement ce qui ne va pas bien aller. et que la pire chose pour nous, c'est de perdre une maman. Parce que bon, les enfants, les femmes savent depuis la nuit des temps que c'est parfois un peu aléatoire. Que, alors plus de nos jours, mais avant, il y avait des femmes qui avaient accouché 18 fois et puis il leur restait 3 enfants.
Ouais.
Donc ça, ça reste quand même inscrit dans l'imaginaire collectif. Par contre, perdre une maman, c'est insupportable. Et à chaque fois qu'une femme est décédée, heureusement, ça arrive rarement, mais c'est, j'en n'en ai oublié aucune. Et c'est toujours un drame pour les équipes et c'est toujours une grande souffrance, évidemment pour ma famille, mais pour nous aussi.
Bien sûr.
Et en fait, ce qui nous remet en selle, parce que c'est vraiment ça, c'est que le show doit continuer, comme disent les artistes, et qu'on ne peut pas se murer dans notre peine et laisser les autres femmes qui sont en attente de soins. On ne peut pas les laisser. Donc on s'oblige à revenir en essayant de ne rien laisser paraître de combien on est chaviré à l'intérieur. Et puis voilà, la vie reprend le dessus. Mais ce sont... j'avais une amie qui disait mon cimetière personnel en parlant de tous ces accidents.
Oui, c'est très parlant. On voit l'image et... je voulais avoir ton avis sur le mouvement, tu sais, qui a eu lieu sur la condition des sages-femmes. Il y a eu un mouvement, une femme, une sage-femme. J'imagine que tu en as forcément côtoyé beaucoup. Est-ce que tu as un avis sur leurs conditions de travail ou sur ce débat ?
Alors, ce débat-là spécifiquement, j'en suis tout à fait partie prenante, puisque je sais, et puis toutes les études le montrent, que l'avenir obstétrical d'une femme est impacté, que si elle a une sage-femme pour elle, forcément l'accouchement va mieux se passer, c'est clair. Alors ça peut paraître pas très scientifique, mais le fait qu'une sage-femme soit dédiée à une femme et la rassure à tout moment et l'accompagne à tout moment fait que le travail va mieux se passer et qu'il y a moins de complications. Alors évidemment c'est assez compliqué à mettre en place, pourtant les Anglais y arrivent pas trop mal. Mais là où nous, on a 60 sages-femmes, ils peuvent en avoir 250.
Ah oui.
Donc, il faut accepter ce coût. Et après, ça ne réglera pas tout, parce qu'un jour, on peut avoir 10 patientes en même temps et les sages-femmes vont être débordées. Le lendemain, il y en a 3 et tout va bien. Mais je pense que la présence des sages-femmes auprès des femmes est essentielle et qu'elle a été un petit peu gommée par la péridurale, par nos salles de naissance qui sont devenues très vastes et du coup il y a énormément de distance parcourir et ça n'aide pas. Je me souviens des salles de naissance de mon enfance de docteur où, qui étaient beaucoup plus ramassées et où on avait d'un coup d'œil, on était là pour tout le monde et c'était une toute autre atmosphère.
Est-ce que tu as un avis sur le sujet dont on a beaucoup parlé, qui est celui des violences obstétricales ? Ma question, c'est, évidemment, c'est un sujet qui est fondamental. Je me dis parfois que ça ne doit pas être évident non plus de se positionner en tant que médecin quand on veut bien faire son travail. On parlait tout à l'heure en off du sujet de l'épisiotomie, dont beaucoup de femmes enceintes et qui accouchent se soucient. Parfois, c'est indispensable. Est-ce que tu trouves qu'on en fait trop sur ce sujet ? Quel est ton avis ? Et comment est-ce que trouver la juste place dans ce débat ?
Eh bien, c'est très difficile de trouver la juste place, malheureusement, parce que si vous voulez mettre un peu de nuance, on vous accusera toujours de vouloir protéger l'autre bord. Alors qu'en fait, les choses sont quand même assez nuancées. C'est-à-dire que quand on parle de violence obstétricale et qu'on fait allusion à l'Amérique du Sud, là, c'est... Il y a une grande évidence. On fait, je ne sais plus combien, 90% de césariennes. La vie des femmes, tout le monde s'en fiche. Elles ne sont pas très bien accompagnées. Et elles sont parfois réellement violentées physiquement. Je pense qu'en France, ce n'est pas tout à fait comparable. Et faire une épisiotomie, ce n'est pas une mutilation sexuelle, comme on veut nous le faire croire. C'est faire une échographie en passant par le vagin, ce n'est pas un viol. Alors évidemment, on peut être extrêmement maladroit. Il y a des humains malveillants dans tous les métiers. Mais ce n'est pas ce qui domine. Donc je pense qu'il faut, il faut que nous, profession médicale, on soit très vigilants parce que parfois on ne se rend pas compte de l'impact de nos paroles. Et nous en parlons tout à l'heure. On peut dire un truc qui nous paraît anodin et qui va être perçu d'une manière catastrophique par la patiente en face. Donc beaucoup de vigilance sur ce qu'on dit, sur la manière dont c'est reçu, parce que parfois on peut dire des choses maladroites et quand on s'aperçoit, explicité et immédiatement, ça fait diminuer la pression. Mmh. Et donc il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on apprenne aux jeunes à parler aux patients avec les bons mots, sans générer de stress, sans être inutilement humiliant, ni dans la toute-puissance que pourrait donner la connaissance médicale, hélas de moins en moins. Et d'un autre côté, il faut pouvoir expliquer aux femmes qu'il y a des gestes que nous devons faire et que aujourd'hui on a l'impression qu'il faudrait demander la permission, par exemple, pour faire une épisiotomie. Mais si, je ne sais pas, vous faites renverser dans la rue, que vous saignez la rage, le réanimateur, il ne va pas vous demander la permission ni de vous transfuser, ni de vous enlever la rage si elle a explosé. Et pour moi, c'est
du même ordre.
Ça se passe dans une région d'intimité, mais c'est du même ordre. Et si on a confiance dans son soignant, on sait qu'il ne fera pas n'importe quoi juste pour vous faire du mal.
Bien sûr.
Il faudrait être quand même assez tordu. Donc voilà, c'est un équilibre très subtil. Il faut à la fois préserver le corps médical qui fait un travail remarquable, tout en étant vigilant, parce qu'il y a des dérives, parce qu'il y a des médecins malveillants, parce qu'il y a des médecins qui ont des attitudes clairement sexualisées, qui ont commis des agressions sexuelles, des viols sur leurs patientes. C'est complètement vrai. Mais jeter le bébé avec l'eau du bain me paraît un petit peu excessif.
Je comprends tout à fait. Le sujet des violences, il est malheureusement d'actualité. Alors là, on est fin février, mais ce n'est pas simplement parce que le 8 mars arrive bientôt, c'est aussi parce que le confinement a été très présent, parce que les femmes sont plus à la maison avec leurs conjoints du fait du couvre-feu, parce qu'on a beaucoup parlé de l'inceste aussi récemment. Je voudrais aussi qu'on parle, parce que j'aimerais te poser 1000 questions, mais je veux préserver notre temps. Je voudrais qu'on parle aussi des violences psychologiques qui sont plus insidieuses, qui sont moins visibles forcément parfois que les violences physiques. Et dis-moi si je me trompe, qui touche tous les milieux, les violences psychologiques quelque part?
Oui, les violences psychologiques touchent tous les milieux, mais les violences physiques aussi.
Oui, voilà, c'était derrière ma...
On a cette image d'Épinal que c'est chez les pauvres, chez les alcooliques. N'importe quelle femme qui tombe sur un agresseur un peu malin peut être victime de violences physiques. Alors les violences psychologiques, c'est encore plus ennuyeux parce que ça ne se voit pas. Parce que justement, si la femme dit cet homme que vous trouvez tous si formidable, si drôle, si délicieux, a en fait un revers qui est extrêmement pernicieux, qu'il m'humilie depuis 35 ans que nous sommes mariés, qu'il m'a transformée en serpillière, qu'il m'a ôté toute estime de moi, personne ne vous croira. Parce que ça ne colle pas avec l'image que cet homme donne, et c'est pas par hasard qu'il a cette si belle image à l'extérieur. C'est une façon de plus de protéger le secret de la violence qu'il fait peser sur sa compagne. Donc cette violence psychologique, ce que disent les femmes, c'est que c'est plus dur parce que ça ne se voit pas, elles préféraient avoir des bleus. Comme ça, on les croirait.
Ouais.
On pourrait les plaindre. On pourrait s'occuper d'elles. Alors que là, non.
En réfléchissant à cette question, Hada, je me suis dit justement... parce que cet épisode, c'est un épisode qu'on appelle hors-série, qui vise notamment à alerter de par ton parcours et ton expertise sur le sujet. Qu'est-ce que tu dirais justement à ces femmes qui sont peut-être, par exemple, dans des milieux de, je sais pas, cadre supérieur, qui ont honte, peut-être même d'autant plus honte parce que... comme tu dis, on croit à tort que c'est quelque chose de culturel, que soit ça vient de l'alcoolisme ou vient de la pauvreté. Ma question, c'est comment est-ce qu'on peut identifier ces signes peut-être avant-coureurs, qu'on est au creux d'une violence psychologique réelle, et comment est-ce qu'on brave la honte, justement, quand on vient d'un milieu où, finalement, on ne se doute pas du tout qu'il peut y avoir ça? Vaste question.
qui amène différentes réponses ou pas du tout. Alors, comment on peut... suspecter. Je crois qu'on a tous des copains. Quand on est avec eux, à un dîner, il y a un malaise palpable. Et on se dit plein de fois, non mais pourquoi il lui parle comme ça? Et la phrase qui vient après, pourquoi elle dit rien? C'est parce qu'on méconnaît ce qu'on appelle le phénomène d'emprise. Et que si cette femme ne dit rien, c'est qu'elle est sous l'emprise de cet homme depuis longtemps. Et que cet homme a une technique extrêmement particulière, qui est d'humilier et de rabaisser sa femme sous couvert de blagues, d'avoir de l'esprit, d'être spirituel, de finalement rallier ses potes à sa cause. Mmh. Et si vous l'attaquez, il va vous dire « mais je rigole ». Et combien de fois nous nous sommes tués ? Combien de fois nous nous sommes dit « c'est pas mon problème ». C'est leur couple, peut-être qu'ils fonctionnent comme ça, de quoi je me mêle.
C'est très vrai.
Et ce « de quoi je me mêle », je crois, qui tue. Parce qu'en fait, on devrait parfois se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Parce que ça peut permettre d'éviter des drames. Donc déjà, se faire un peu, pas son autocritique, mais se dire, en fait, j'en ai laissé passer des tonnes, moi, des dîners comme ça, des moments où je me disais, non, mais il lui parle comme un chien, c'est pas possible. Mm-hmm. Et puis je disais rien. Alors, il faut pas aller cogner le pote. Mm-hmm. Mais si à chaque fois, on lui disait, tu parles pas comme ça à ta femme devant moi, que je m'en vais, ça pourrait déjà amener une petite prise de conscience, et elle sentirait aussi qu'elle est légitime dans ce qu'elle ressent. Et c'est encore plus vrai pour les jeunes, parce que combien de fois il y a des jeunes qui font des blagues débiles sur la copine de classe qui est mal fagotée, qui est ci, qui est là, et les copains ricanent. Il y en a un qui aurait le courage de dire « je veux pas que tu parles comme ça devant moi, je me casse ». Déjà, ça changerait la donne, je pense. Et quant à sortir de la honte, c'est super dur de sortir de la honte. Il faut avoir des alliés, des bonnes copines, de la famille, des gens qui savent, des gens qui vous croient, des gens qui vous disent « ce n'est pas normal ce que tu subis, tu n'es pas obligé, ce n'est pas inéluctable ». Après, il y a tellement de paramètres, et qu'est-ce que je fais, et les enfants, et où je vais, et on a construit tout ça, et puis je l'aime. Ça aussi. Je veux pas partir, je l'aime, et je l'aime tellement fort que je vais l'aider à changer, qu'il va devenir meilleur, et il me l'a promis. Ok, il me l'a promis 45 fois, il a toujours pas changé. Mais c'est très très dur, donc il faut beaucoup de patience, beaucoup de courage et un maximum de soutien.
Alors je trouve que ce que tu dis est tellement important que je m'attarde un peu là-dessus. Est-ce que tu dirais, je sais pas s'il y a un absolu de réponse, mais je me mets à la place de celles qui écoutent et qui peuvent vivre ça, est-ce que tu dirais que quelqu'un qui apporte, alors là je parle pour le coup de violence physique, que quelqu'un qui a tapé une fois, qu'il faut tout de suite partir, je te pose cette question volontairement parce que je me dis il y a des femmes qui certainement qui écoutent et qui ont vécu ça et qui se sont dit oh c'est une fois ça a dérapé ou que sais-je, quel est ton avis là-dessus?
La plupart des femmes sont passées par cette phase-là. Parce que la première gifle n'arrive pas à la première rencontre. Elle arrive quand la femme a déjà subi un assaut de séduction, un love bombing, comme disent les spécialistes, qui fait qu'elle se sent déjà dans une posture spécifique.
Qu'est-ce que c'est le love bombing?
C'est quand on inonde l'être, alors qu'on dit aimer, mais qu'en fait on a choisi comme proie, on l'inonde d'amour. Tu es la plus belle, la plus merveilleuse, j'ai jamais rencontré une femme comme toi. Toutes les autres avant, elles étaient connes, elles m'ont fait chier, et vraiment, toi, mais toi, qu'est-ce que je ferais sans toi? Et donc, on est dans une place tellement exceptionnelle que ça, pour le coup, c'est très, très, très valorisant. Ce qui fait que quand les violences apparaissent, et en général, elles apparaissent insidieusement, tu vois, il est fâché, il est énervé, c'est ma faute, il m'avait dit de ne pas mettre ce décolleté à ce dîner parce que, voilà, il y avait son patron, je ne sais pas quoi, toutes les raisons sont bonnes. Et donc, on accepte pas mal de choses. Et quand on a accepté les petites choses qui sont montées crescendo, pourquoi on partirait à la première vraie baffe? C'est ça qui est compliqué. Donc, à quel moment il faut partir, je ne sais pas. Chacune connaît sa résistance, mais je crois qu'à la première vraie manifestation de violence, il faut se poser la question. Est-ce que je reste avec cet homme-là? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que je suis en sécurité malgré tout? Il m'a dit qu'il avait été maltraité, qu'il avait une vie horrible, qu'il était super fragile et que par moments c'était plus fort que lui. Ok, jusqu'où? Et il n'y a pas une réponse, c'est sûr. Mais quand ça a été très loin et qu'on reste en se disant que ça va aller mieux, là je crois qu'il faut faire pause et se demander si on n'est pas en train de faire complètement fausse route.
Il y a un point que tu mentionnais que je trouve intéressant dans ce type de schéma. Je crois que les études montrent que quand un premier enfant arrive, les violences ont tendance justement soit à vraiment se révéler, voire à s'accentuer. Parce que, tu vas mieux l'expliquer que moi, mais parce que justement le conjoint se dit que maintenant il y a l'enfant. Comment on explique ça, que les violences augmentent quand justement un enfant arrive?
Parce que la femme a un centre d'intérêt très puissant. qui est son enfant. Et l'homme se sent dépossédé de son joli jouet docile. Donc il sait qu'une partie de l'attention de cette femme va se reporter sur son enfant, et qu'au détriment de l'admiration qu'elle lui voue. Et donc cette menace-là, il l'anticipe. Et ils ont raison, parce que en fait, l'enfant est parfois la motivation la plus forte pour qu'une femme s'en aille. Elle dit très souvent, je pars pas pour moi. Moi, ça y est, tant pis, il m'a cassée, abîmée, détruite. Mais je pars pour les enfants parce que maintenant, j'ai peur pour eux. Donc, quelque part, c'est une réelle menace.
Oui, bien sûr. Le 8 mars, on le mentionnait, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Est-ce qu'il y a, selon toi, aujourd'hui, un droit plus prioritaire que tous les autres, qui n'est pas respecté, qui est bafoué ? Est-ce qu'on ne peut pas mettre des priorités sur ce type de sujet ? Quelle est...
Ouais. Je pense que les priorités, la priorité aujourd'hui, probablement parce qu'elle est à la racine du reste, ce sont les enfants. Ce sont les violences éducatives et sexuelles que subissent les enfants dans l'intimité des foyers. Parce que c'est une façon de transformer la violence en phénomène éternel, inscrit dans une famille qui va reproduire. Et c'est aussi extrêmement destructeur pour les enfants. Donc, je pense qu'une société qui ne protège pas ses enfants est une société qui est folle. Et il faudrait vraiment s'attaquer à ce mal à la racine. Et on pourrait espérer, je dis pas, j'ai pas la recette pour éradiquer la violence, ça serait très bien, mais non. Mais on peut se dire qu'on va déjà supprimer beaucoup, beaucoup de personnes qui auraient été abîmées par une violence intrafamiliale et qui deviendraient des victimes ou des agresseurs.
Ouais.
Alors, il y a des gens qui ne deviennent ni victimes ni agresseurs, heureusement. Mais quand même, avoir vécu des choses innommables dans son enfance vous prédestine à un destin très compliqué. Très compliqué.
Puis je trouve qu'on touche à ce qu'il y a de plus sacré, qui est l'enfance, et à ce que l'être va devenir. Et ce que tu disais, tu vois, quand tu mentionnais ces dîners où on a toutes et tous laissé passer des réflexions un peu border, un petit peu violentes verbalement, il y a aussi, je crois, ce devoir d'alerte quand on a une suspicion sur ce qui peut se passer chez un voisin, dans un foyer, où on se dit « Ah, là, c'est bizarre, ou c'est peut-être pas normal », et où je pense qu'on a trop tendance à se dire « Bah non, je vais quand même pas faire de vagues, pas faire de bruit, ça me regarde pas, ce que tu disais ». Et moi, j'ai envie de dire, mais je trouve que c'est très difficile, et je suis persuadée qu'on pourrait peut-être prévenir et éviter plein de... Enfin, du moins alerter, de se dire « Même si je suis pas du tout sûre de ce que j'avance, mais c'est difficile, quand même ».
Oui, mais aujourd'hui, on sait qu'il vaut mieux alerter par excès que par défaut.
Ouais.
Et puis, alerter, ça ne veut pas dire dénoncer clairement.
Oui, enfin, y a une différence, bien sûr.
Donc, il va y avoir une enquête. L'enquête déterminera si on s'est inquiété pour rien. Et tant pis, tant mieux. Ou bien si on a vraiment, vraiment bien fait de signaler. Donc, je crois que quand on est dans le doute, il vaut mieux signaler en disant, voilà, je ne sais pas très bien, mais je suis inquiet.
On peut faire des alertes anonymes aujourd'hui ?
Oui, on peut faire des alertes anonymes. On peut aussi appeler la police en disant voilà, j'entends des trucs bizarres chez mes voisins. C'est pas la première fois, c'est un peu plus violent, je suis inquiète. Et puis après, à eux de faire leur boulot, vous savez, c'est autre.
Ouais. Je voulais aussi qu'on aborde un sujet qui est celui du droit à l'IVG. Je trouve que parfois ça peut être compliqué là aussi de trouver le juste équilibre entre ce droit fondamental et tellement important. Qu'est celui de l'IVG, et en même temps le fait de pouvoir accompagner en ne le banalisant pas.
Je pense qu'il y a deux problèmes radicalement différents. Il y a l'IVG, l'IMG, pour raison fœtale, qui est évidemment un drame, puisque c'est un enfant qui a été en général ardemment désiré, dans lequel on s'est projeté, qui est un enfant idéalisé et rêvé, comme tous nos enfants, tant qu'on ne les a pas vus. Et que là, c'est un deuil terrible. Parce qu'on fait le deuil de cette grossesse, de cet enfant parfait. Et ces avortements-là doivent être particulièrement accompagnés, parce qu'on sait que les femmes, après, rentrent chez elles avec le syndrome du berceau vide, le ventre vide, et que c'est extrêmement difficile. Et il y a beaucoup de dépressions un peu larvées qui surviennent, même si ça ne remet pas en cause le choix d'avoir avorté. Parce que quand on fait ces avortements-là, c'est que la vie de l'enfant à venir va être très compliquée, sinon la loi ne l'autoriserait pas. Et donc ce sont des choix éclairés, ce sont des choix avertis. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va les vivre bien. Si par contre c'est une IVG demandée par la femme parce qu'elle n'a pas envie d'être enceinte, elles le vivent très clairement beaucoup mieux,
oui.
Parce que ce n'est pas une grossesse désirée. Et pour moi, la différence fondamentale, elle est dans le désir. Si un enfant n'est pas désiré, pas attendu, il a quand même 90 chances sur 100 de ne pas être aimé. Et que devient un enfant pas aimé? Une superbe victime. Donc, quel est l'intérêt? Il y a des femmes qui regrettent le fait de leur IVG. Mais parce que choisir aussi, c'est forcément renoncer à quelque chose. Moi, j'ai rencontré des femmes qui avaient avorté parce qu'elles étaient seules à 20 ans et qui, toujours seules à 45 ans, se disaient « si j'avais gardé l'enfant ». Mais en oubliant que 25 ans avaient passé et que le choix qu'elles avaient fait à 20 ans, elles n'étaient plus la même personne. Donc, oui, on peut regretter, mais je pense qu'il est beaucoup plus douloureux de regretter un enfant désiré
qu'un
enfant
qu'on désirait pas. La notion de désir est fondamentale.
Complètement. C'est pour moi ce qui fait exactement la limite entre eux, quand les gens disent « oui, mais la vie est sacrée, oui, mais elles ont qu'à l'accoucher et puis elles l'aimeront après ». Non, je vais pas des paris sur le dos des enfants.
Ouais. Exactement, oui. Pour parler aussi de choses positives, parce qu'il y en a, qu'est-ce qui, selon toi, évolue dans le bon sens aujourd'hui par rapport à ces sujets qu'on a abordés qui sont liés aux femmes? Est-ce que tu vois des choses qui avancent dans le bon sens? Et si oui, lesquelles?
Beaucoup de choses, on avance d'une manière incroyable. En 30 ans, il s'est passé tellement plus de choses qu'en 30 siècles. Évidemment, on n'est pas au bout du compte. Évidemment, beaucoup encore est à faire. Si déjà, on arrivait à mettre toute la planète au niveau de, pas de toute l'Europe, mais des pays européens qui ont progressé en matière d'égalité, de lutte contre le sexisme et contre les violences sexuelles, on aurait fait un énorme pas. Parce que nous vivons quand même dans une partie du monde où notre sort est particulièrement viable en tant que femme. Et je crois que beaucoup d'Afghanes, d'Irakiennes, de Saoudiennes rêveraient d'avoir le sort qui est le nôtre. Après, il y a des choses qui restent fragiles. On parlait de l'IVG. On entend encore aujourd'hui dans les débats au Sénat et à l'Assemblée nationale, des hommes blancs, relativement âgés, avoir des positions extrêmement rétrogrades sur l'IVG, et on sent que c'est même pas d'allonger les délais qui les chagrine, c'est tout simplement que la femme puisse avorter. Donc ça, je me dis quand même, on n'a même pas sécurisé ça, c'est assez inquiétant. Par ailleurs, je vois que dans une partie de la jeune génération, les notions d'égalité quand même et de respect progressent, que le consentement n'est plus juste un mot pour rigoler. C'est malheureusement pas vrai partout. Mais je pense que cette génération-là qui a fait ce chemin, c'est celle qui va prendre les congés paternité, c'est celle qui va partager équitablement les tâches au foyer, celle qui va pas se sentir humiliée parce qu'elle gagne moins bien que sa femme. Je pense que cette jeunesse-là va peut-être encore accélérer la donne.
Tu as publié aux éditions de l'Aube un livre qui s'appelle « Vaincre les violences faites aux femmes » et tu as aussi publié un autre livre chez First qui lui s'appelle « Le sexe et l'amour dans la vraie vie ». Est-ce que tu peux nous dire juste deux mots de quoi traitent ces deux ouvrages ?
Alors l'ouvrage publié aux éditions de l'Aube s'appelle en fait « Au pays du machisme ordinaire » parce que le titre proposé par l'éditeur me paraissait complètement ridicule. Personne n'a jamais vaincu les violences faites aux femmes. Mais par contre, effectivement, pour avoir vécu au Proche-Orient, qui est un pays où le machisme est très ordinaire, et pour avoir retrouvé en France un machisme ordinaire aussi, même s'il est mieux habillé, je trouvais que le titre était plus adapté. Bon, le premier est en fait, ce sont des entretiens menés par un journaliste qui me questionnait sur mon parcours, mon engagement, la maison des femmes, pourquoi, comment. Et le deuxième est plus amusant, de mon point de vue. Il est né de l'envie de Clémentine Dupont-Avis, qui est illustratrice, mais pas que, et qui est très motivée par l'éducation des enfants, et qui avait envie de faire un livre d'éducation sexuelle à destination des enfants. et qui m'a proposé de le réaliser avec elle. Elle est venue avec moi dans les lycées et les collèges faire des entretiens avec les ados et elle a adoré ça. Et donc on est parti sur qu'est-ce qu'on aimerait dire aux jeunes qui viennent à l'encontre de tout ce qu'ils entendent. Et moi, mon souhait, et alors je dois dire que Clémentine a merveilleusement réussi, c'est que la plupart des messages soient dessinés, suggérés. Parce que je trouve qu'il y a tellement de bouquins très verbeux que les adolescents referment au bout de deux minutes. Parce que voilà, c'est très bien, ce sont des bouquins informatifs, etc. Mais moi, à leur âge, je sais que...
Tu n'aurais pas forcément ouvert un livre comme ça.
Alors que des petits dessins qui, à chaque page, vous font un petit clin d'œil en vous disant, bah, en fait, c'est ça, c'est comme ça la vraie vie. Ou bien, t'inquiète pas, c'est pas grave. Ces petits dessins-là que Clémentine réussit merveilleusement bien, je trouve, font vraiment le succès de ce livre. Alors moi, je suis juste arrivée par-dessus avec ma petite patte de docteur. Mais c'est vraiment cet ouvrage, elle l'a porté, lui doit beaucoup. Et j'en suis vraiment très heureuse parce que on a plein de témoignages de jeunes, mais surtout de parents, qui disent oh, « j'ai appris plein de choses » ou alors « ça m'a permis de discuter avec mes enfants de choses que je n'avais jamais su comment aborder ces sujets. »
Oui, ça doit même aider les parents, complètement. Bien sûr.
Et c'était aussi un peu notre souhait, à vrai dire. Et aujourd'hui, les droits ont été acquis par la Tchécoslovaquie, je crois, et le Mexique. Et moi, je cherche un éditeur pour le faire traduire en arabe parce que je pense que ça va être compliqué.
Mais c'est ambitieux, mais c'est nécessaire.
Oui, voilà, je pense que c'est utile.
Ce que tu disais m'amène à une avant-dernière question parce que tu mentionnais le sujet de l'éducation et évidemment, comme tout, comme pour tous les autres sujets, mais c'est clé de prendre ces problèmes-là à la racine. Ma question, c'est comment est-ce que tu... à quel moment est-ce qu'il faut commencer à sensibiliser un enfant au sujet de l'inceste et du consentement? C'est-à-dire, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, moi je te le disais, je suis jeune maman, j'ai un petit garçon, parce que ça touche les petites filles, mais aussi les petits garçons. Comment est-ce qu'on commence, à quel âge, à parler à son enfant du sujet du consentement?
À tout âge. Déjà, manipuler un nourrisson avec respect, c'est une façon de lui transmettre cette notion de consentement. Et plus tard, d'être hyper respectueux de l'intimité de ses enfants, de ne pas leur imposer... la vôtre en pleine figure, alors que pour eux, c'est extrêmement anxiogène. Ça passe beaucoup déjà par ce qu'on montre, par la manière dont on touche, la manière dont on parle. Et petit à petit, on peut mettre des mots de plus en plus précis. Ça peut aller de, tu vois, ton corps est à toi, et puis ces endroits-là sont des endroits intimes, personne n'y touche, que toi, quand tu veux, etc. Tout en faisant attention à un écueil qui est de ne pas surresponsabiliser l'enfant. Ce qui l'amènerait à dire, si j'ai pas su dire non, c'est que je suis nulle, c'est que j'ai consenti. Donc, quand même, remettre la responsabilité sur celui qui la porte, c'est-à-dire l'adulte. Et dire à l'enfant, surtout, parle-en, n'aie pas peur. Et même si quelqu'un t'a fait du mal, c'est pas irrémédiable. On peut t'aider, on peut t'accompagner, on te croit. Trouve un adulte à qui en parler, ça c'est très important. Mais lui dire, si tu ne fais pas assez attention à toi, quelque part, c'est ta faute. Je trouve que c'est lui transférer une responsabilité qui n'est pas la sienne et c'est pas honnête du tout. Et pour faire un peu de pub, nous sommes en train de travailler avec Mylan, la chanteuse, qui est elle-même victime d'inceste. Elle a écrit un très joli petit livre pour enfants qui s'appelle Le Loup, que nous sommes en train d'essayer de faire éditer. Elle a écrit une très jolie chanson qui s'appelle Le Loup.
Et Le Loup, c'est ça ?
Le Loup, ok. Ouais, Le Loup est dans la maison. Et avec une charmante psychologue qui travaille dans des instituts d'enfants victimes de violences. Elle a écrit, j'ai un petit peu accompagné, un manuel à l'usage des parents pour savoir comment utiliser ce livre pour enfants et qu'est-ce que ça ramène à quel concept, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que le psychotrauma, etc.
Et je le mettrai dans les notes de l'épisode.
Oui, parce qu'on est vraiment en cours d'édition. Et je pense que des outils de prévention comme ça vont aider les parents à aborder le sujet avec beaucoup de délicatesse, sans faire peur. L'idée n'est pas de stresser les enfants, mais de leur dire que voilà, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie d'un enfant, qu'elles ne sont pas normales, et qu'il faut très très vite en parler à un adulte.
Ouais, et d'avoir ce moyen pédagogique justement du livre ou de la chanson ou de l'histoire pour en parler.
Bien sûr, ça marche très bien parce que la psychologue en question a testé, donc on a déjà préimprimé quelques livres, a testé ça dans sa consultation. Et elle me disait qu'une petite fille qui n'avait jamais parlé, alors que dans le bureau il y a d'autres bouquins qui parlent aussi de violences sexuelles, s'est emparée du livre et a tout raconté. Donc je pense qu'il y a des petits outils comme ça qui peuvent faire la différence.
Ma dernière question, c'est que tu le mentionnais au début, ce très beau projet que tu portes de la Maison des Femmes, tu ne le portes pas seule, il y a une équipe derrière d'hommes et de femmes. Ma question, c'est d'où viennent-ils ces personnes qui travaillent aujourd'hui au sein de la Maison des Femmes avec toi? Combien de personnes est-ce qu'il y a?
Aujourd'hui, nous sommes une soixantaine impliquées dans la Maison des Femmes, mais certains de manière ponctuelle, à titre bénévole, et puis d'autres au charbon tous les jours. Donc il y a toutes les... d'avoir moitié de salariés, moitié de bénévoles. Et bien ces personnes sont pour la plupart toutes venues à moi en me disant j'ai entendu parler de ce projet, je trouve ça formidable, j'ai envie de m'appliquer. Et en fait l'équipe s'est construite beaucoup en marchant petit à petit. Alors on a accueilli parfois des gens qui ne sont pas restés parce que finalement c'était pas ce qu'ils imaginaient ou ça leur convenait pas, mais petit à petit ceux qui étaient venus à cause du concept et qui sont restés forment aujourd'hui un socle vivant, solide, apaisant, qui porte la Maison des Femmes et qui lui permet, et ça c'est vraiment c'est un souhait que j'ai très très fort, de faire école, d'essaimer et d'amener d'autres villes, d'autres hôpitaux à dupliquer le modèle.
Formidable. Et donc pour vous aider, on peut faire des dons, on peut... Comment est-ce que ceux ou celles qui veulent contribuer peuvent le faire?
Alors on peut faire des dons en allant sur notre site, il y a une rubrique données. Et on peut aussi s'engager dans une maison des femmes qui va s'ouvrir près de chez soi. Il va y en avoir une à Marseille, à Rennes, à Reims, à la Pitié Salpêtrière. Donc si on a des compétences spécifiques, si on est en capacité d'animer un atelier de je ne sais pas quoi, de yoga, de karaté, on peut proposer ses services. On peut aider à la levée de fonds, on peut aider à la communication, on peut aider au jardinage.
Dans son domaine de compétences ou de volonté, il y a plein de choses à faire.
Il y a plein de choses à faire, toujours.
Merci beaucoup pour cet échange et pour tes éclairages et pour ton temps.
Merci à toi, Laura.
À bientôt, Rada.
À bientôt.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez me suggérer une invitée, une femme au parcours inspirant ou ambitieux, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, Legend Ladies Podcast, ou sur LinkedIn, à Laura Le Sueur. Une dernière chose, si vous voulez soutenir ce podcast, le meilleur moyen de le faire est de mettre 5 étoiles et même un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Ça m'aide vraiment beaucoup. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, que les seules limites à vos ambitions sont celles de votre esprit. Looks like a girl, but she's a flame. So bright she can burn your eyes. Better look the other way. You can try, but you'll never forget her name. She's on top of the world. Hottest of the hottest girls say, oh. We got our feet on the ground and we're burning it.
girl, but she's on fire.